Donc je vais commencer, je vais introduire un premier modèle qui était le modèle, de croissance, disons que j'ai étudié, que beaucoup de gens ont étudié. C'est le modèle de croissance par accumulation du capital. Mais je le fais ça parce que, vous pourriez dire, mais pourquoi introduire un modèle qu'on n'utilise plus tellement? D'abord, c'est un modèle que beaucoup de gens utilisent encore. Donc le modèle est encore très utilisé. Et puis, par ailleurs, je crois que c'est très bon pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'un modèle et ce qu'on attend d'un modèle et comment on confronte un modèle aux données. Donc, je crois que c'est important, à tout point de vue, que je fasse ce passage par le modèle de croissance néoclassique. Alors, je l'appelle modèle de croissance par accumulation de capital. Un autre terme, c'est modèle de croissance néoclassique. Alors, voilà. Autre nom, c'est le modèle de Solow, S-O-L-O-W, du nom de Robert Solow, qui a eu le prix Nobel. Donc, ce modèle date de l'année de ma naissance, 1956. Et lui a eu le prix Nobel en 87 pour ce modèle-là. Voilà. Et ce qui a fait le succès de ce modèle, c'est sa parcimonie. Vous savez, quand vous faites un modèle en économie, l'économie, c'est très compliqué, il se passe tellement de choses. Tout est un peu dans tout en économie, hein, dans le monde. Et donc, c'est beaucoup de travail pour arriver à quelque chose de très simple, où vous faites un peu comme un croquis. Vous savez que des fois, vous avez des gens ils vous font des aquarelles, par exemple. C'est des aquarellistes géniaux, ils vous font trois traits et ils ont capturé un port, un endroit, etc. Et bien, c'est appelé quelque part un modélisateur qui a du talent. Il est capable, c'est comme un excellent aquarelliste. Et il arrive ça à deux traits, et avec deux équations, Solow vous décrit un processus de croissance. Et si vous voulez, c'était très utile aussi parce que nous qui avons travaillé sur d'autres modèles, Solow a toujours été un modèle de modèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut qu'on arrive, si j'arrive avec un modèle qui a 10 équations, personne ne va faire attention. Si j'ai un modèle qui se ramène à 2 équations ou un petit nombre, à ce moment-là, les gens regardent parce que c'est vrai que j'ai mis le doigt sur les processus fondamentaux. Et donc, si vous voulez, Solow, c'est une référence. Donc, si vous voulez, le succès de Solow, c'est d'abord parce que vous avez un modèle élégant et parcimonieux, c'est-à-dire qui économise en hypothèses et en équations. On écrit tout avec peu d'équations et de manière très ramassée. Donc ça, c'est quand même très joli. L'autre chose qui est très intéressante chez Solow, c'est que c'est un modèle qui explique pourquoi, sans progrès technique, il n'y a pas de croissance de long terme. Donc, si vous voulez, c'est un modèle de croissance qui vous explique pourquoi, en gros, voilà, l'accumulation de capital ne vous donne pas de croissance. Voilà, c'est très intéressant. Donc, c'est un petit peu un modèle qui est un modèle de référence, c'est-à-dire de dire, voilà, dans la réalité, on sait qu'il y a du progrès technique, de l'innovation, mais on prend Solow comme référence. C'est le monde où il n'y aurait pas de progrès technique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait pas d'innovation. Et là, on est dans le modèle de Solow. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très utile. Il y a en économie Haro de Breu, par exemple, ou Valras, si vous avez entendu parler, et la théorie d'équilibre général, la référence, c'est Haro de Breu. Mais ensuite, on s'écarte d'Haro de Breu. Par exemple, en théorie de la finance, il y a Modigliani et Miller, qui expliquent que sous certaines conditions, peu importe comment je finance, si je n'ai pas de coût de transaction, s'il n'y a pas d'information asymétrique, etc., dans une économie sans coût de transaction, eh bien, que je finance un investissement par dette ou par action, n'a aucune importance. Mais on sait que dans la réalité, ça a beaucoup d'importance, parce qu'on n'est pas dans le monde de Modigliani et Miller. Vous voyez, Solow, c'est un petit peu à la croissance qu'est Modigliani et Miller à la théorie de la finance, ou ce qu'est Haro de Breu à la théorie des marchés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà. Et donc, c'est toujours bien d'avoir vous voyez, le point de référence qui est un point comme celui-là. Donc, je crois que c'est intéressant. Et Solow est un homme adorable. Enfin, j'ai eu dans ma vie, je peux vous raconter aussi, un peu mon histoire, c'est aussi je vous raconter un peu mes rapports avec les économistes, si vous voulez. Et c'est des très grands. Et les très grands, en général, ils sont pas prétentieux. Alors peut-être que si vous me trouvez trop prétentieux, levez le doigt et dites vraiment, là, ça va pas du tout. D'abord, je suis pas un très grand, donc j'ai pas besoin d'être très prétentieux. De ne pas être très prétentieux, oh là là, je commence à m'emmêler les pattes, là. Bref, donc moi, je me sens pas concerné, voilà. Mais bon, les très grands que j'ai connus, ils sont en général très modestes. Et j'ai eu deux figures dans ma vie, trois, parce que Tirole est tout à fait de ce calibre, et qui est le même genre d'individu. Si vous voulez, Kenneth Haro, qui a été un type formidable, qui est encore vivant, il a 95 ans, et ce qui est merveilleux chez Haro, c'est que il est là, il est dans les séminaires, il fait encore plein de remarques, il est passionné, quoi. Il est comme un enfant. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il ira dans les séminaires. J'ai connu Franco Modigliani, qui était comme ça, Bob Solow, Samuelson était comme ça. Alors, Samuelson n'était pas un grand modeste, mais ils avaient la passion de la recherche, et jusqu'au dernier moment, ils adoraient interagir avec les jeunes. C'est très important d'interagir avec et de regarder une nouvelle génération, parce que de dire, voilà, ils ont des idées meilleures que les nôtres. Et Solow, ce qui a été formidable, c'est que nous, quelque part, avec mon collègue Howitt et puis avec d'autres, j'ai développé un paradigme qui était différent du sien. Donc, je vais parler, le paradigme schopenhauerien. Il aurait pu avoir l'attitude d'une, dans certaines professions fermées, de dire, voilà, moi, je ne veux pas d'autres entrants, quoi, hein. J'étais un peu le Uber dans des modèles de croissance. Et quelque part, au contraire, il nous a beaucoup aidés. Il nous a toujours poussés, quoi. Il était tout à fait d'accord et il nous a poussés. Il aurait pu dire, non, ça remet en cause mon modèle, mon paradigme, je ne suis pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il a été formidable, il nous a poussés incroyablement. Et c'est ça que je trouve remarquable chez l'individu. Et ça donne, c'est une leçon, si vous voulez, non seulement ça a été un formidable économiste, mais en même temps un formidable être humain, un formidable collègue. Et c'était pour moi un modèle de ce qu'il faut être en économie, d'abord parce qu'on est tous à chercher, on n'a pas la science infuse, on fait des choses très imparfaites, évidemment, et on est dans le brouillard, beaucoup. Et donc, c'est d'avoir cette modestie et cette ouverture et cette envie de dialoguer et cette envie de... Et c'est ça qui est sympa, quoi. Voilà, je crois que ça doit être fait par des gens sympas et de manière sympa. Voilà, donc c'est un petit peu... Et Solo, je tenais beaucoup à expliquer à quel point Solo, Arrow, tous ces gens-là sont des gens... Formidable. Alors, le modèle de Solo, si vous voulez, pour vous dire d'une manière, je l'avais résumé, je reviendrai sur la manière dont je l'expliquais dans ma leçon inaugurale, parce que j'avais promis que je n'aurais pas d'équations. Donc, si vous n'avez pas les équations, ne les regardez pas, d'accord ? Mais si vous connaissez les équations, vous les regardez. Ça n'a aucune importance si vous ne les connaissez pas. Le modèle de Solo, la beauté, c'est que vous avez deux relations. La première relation vous dit qu'on produit de l'output avec du capital. Alors, ça peut être du capital, j'y reviendrai, ça peut être du capital physique ou du capital humain. Et je reviendrai sur le capital, je peux vous dire une petite slide sur le capital. Je produis avec du capital. Alors, le capital, ça peut être du capital physique, c'est-à-dire des machines, des équipements, etc. Et ça peut être du capital humain. Et c'est du capital humain. Typiquement, il y a la force de travail, mais sur la force de travail, vous avez l'éducation et la santé. Hein, un travailleur en bonne santé, il est plus productif qu'un travailleur en mauvaise santé. Un travailleur qui a été à l'école, il est plus productif qu'un travailleur qui ne sait pas lire et écrire. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est une situation de capital humain. Et les deux s'accumulent. On peut accumuler du capital humain en allant à l'école davantage, en suivant des formations, et on peut accumuler du capital physique en achetant de nouvelles machines, etc. D'accord ? Ça, c'est une notion très importante. C'est important aussi de savoir que le capital peut être de plus ou moins bonne qualité. Chose importante aussi, parce qu'il y a toute la question de la mesure du capital. Quand vous mesurez une machine, c'est une machine, mais c'est une qualité dans la machine, c'est ce qu'elle peut faire. Et le capital humain, c'est pareil, c'est une personne, mais c'est une personne plus ou moins qualifiée. Et donc, ce n'est pas évident de mesurer la quantité de capital humain qu'il y a chez quelqu'un. D'accord ? Donc ça, c'est des questions que je mets comme ça, parce qu'elles vont revenir. Hein ? Je mets des petites graines en vous, là. Mais c'est des choses importantes. Voilà. Donc, mais sinon, le modèle de Solo, donc vous dit d'abord, l'output est produit avec du capital. Voilà. Alors, je mets un A devant, parce que le A, c'est l'idée qu'il peut y avoir une technologie. Et la technologie fait augmenter le A. Mais chez Solo, il n'y a pas une théorie qui explique comment le A augmente. Vous voyez ? Chez Solo, il ne vous explique pas ça. Il dit, ça s'appelle le progrès technique, mais moi, je ne peux pas l'expliquer. Mais l'essentiel, mais je vais, pour le moment, faisons comme s'il n'y avait pas de progrès technique, comme si le A était constant, et c'est le K qui augmente. Donc, quand K augmente, le Y augmente. Bon, mais alors après, il y a une deuxième équation qui explique comment le K augmente au cours du temps. Et le K augmente parce que vous avez de l'investissement, mais il diminue parce que vous avez de la dépréciation. Mais l'investissement, elle vient d'où ? Il est financé comment, l'investissement ? Il est financé par l'épargne, typiquement. Et l'épargne, c'est une fraction. Une fraction, quand vous gagnez de l'argent, une fraction, eh bien, vous consommez, une fraction, vous épargnez. Eh bien, disons que petit s, c'est la fraction que vous épargnez. D'accord ? Donc ça va financer l'investissement. L'argent que vous allez mettre à la banque en épargne, c'est ça qui va financer les entreprises qui investissent. D'accord ? Donc au total, eh bien, ça, c'est l'épargne globale, qui est une fraction s de l'output global, va être épargnée, donc investie. Une fraction D du capital existant va être dépréciée, mais le net, ça va être l'augmentation du stock de capital, vous comprenez ? Voilà. Et c'est ça le modèle de Solo. C'est tout bête. C'est-à-dire, un, je montre comment le F dépend de K à tout moment, mais je montre aussi comment le K augmente. Et le K augmente par l'effet de l'épargne moins la dépréciation. D'accord ? Donc, une fois qu'on a compris ça, voilà. Donc, le capital s'accumule grâce à l'investissement. L'investissement est égal à l'épargne. L'épargne est proportionnelle au revenu. Une fraction D du capital se déprécie à chaque période. Voilà. En gros, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Solo ? On peut se dire, ben, tout irait très bien, parce qu'on se dirait, ben voilà, écoutez, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je produis avec du capital, comme je produis, ça me finance de l'épargne, l'épargne me fait augmenter mon capital, ce qui va me faire augmenter mon Y, ce qui va me faire augmenter mon épargne, ce qui va me faire augmenter mon Y, ce qui va me faire augmenter mon Y. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut se dire, finalement, eh bien, on n'a pas besoin de progrès technique. Mais le problème, et c'est là qu'est le problème, c'est que malheureusement, il y a ce qu'on appelle des rendements décroissants à l'augmentation du capital. C'est-à-dire que quand vous augmentez, si je n'ai pas du tout de capital, je mets une machine, ben, j'augmente évidemment ma production de zéro à quelque chose. Mais si j'ai déjà 10 machines et que j'augmente d'une machine, eh bien j'augmente de très peu ma production. Vous voyez, plus j'ai déjà des machines, plus, et ça c'est avéré, c'est-à-dire que ça on peut le voir économétriquement. On sait que si on regarde la fonction de production macroéconomique, eh bien elle a des rendements décroissants par rapport au capital. C'est-à-dire que si vous avez peu de capital, eh bien le rendement d'une une unité de plus de capital vous donne beaucoup plus d'output, mais si vous avez déjà beaucoup beaucoup de capital, une unité de plus de capital, ça fait pas beaucoup plus d'output, voyez. Ça c'est la chose importante, il y a des rendements décroissants. Et comme il y a des rendements décroissants, eh bien ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain moment, eh bien, l'accumulation, quand le K est très grand, ajouter une unité de K, ça va très peu augmenter l'épargne, mais ça va augmenter sensiblement la dépréciation. Donc, ça veut dire qu'ajouter une unité de K, ça ne va pas vous faire augmenter le K, vous comprenez? Parce que vous avez beaucoup de machines, vous en augmentez une, ça va vous faire beaucoup de dépréciation et très peu d'épargne supplémentaire à cause des rendements décroissants. Donc, il arrive un moment où, quand j'ai accumulé suffisamment de capital, la dépréciation rattrape l'épargne. Vous voyez ce que je veux dire? Rattrape les revenus générés par l'épargne. Et à ce moment-là, eh bien, l'économie ne croît plus. En gros, moi, j'exagère un peu, parce que je donne ça comme l'Union soviétique. Ce n'est pas vrai, parce que l'Union soviétique, l'économie, planifiée, etc. Mais à part le secteur de la défense, il y avait peu d'innovations. Bon, il y avait quand même des innovations de l'Union soviétique, mais enfin, disons que beaucoup dans la défense, et il y avait beaucoup d'inventions et de chercheurs, ça c'est autre chose, mais peu d'innovations. On peut regarder d'une certaine manière que l'économie s'essouffle, parce qu'à force d'augmenter du capital, et c'est beaucoup, ils ont augmenté les taux d'épargne, ça c'est une manière d'augmenter le petit S et de faire croître, ça vous donne de la croissance pendant un certain moment, mais à un moment donné, vous essoufflez et vous arrêtez de croître. Et donc ça c'est important, parce que c'est-à-dire qu'en fait, si je compte que sur l'augmentation du capital, à un moment donné, eh bien, l'accumulation s'essouffle, elle est rattrapée par la dépréciation, et à ce moment-là, l'économie cesse de croître. Donc, si vous voulez, c'est important, parce que c'est une économie qui vous donne, d'alors, la première chose, elle vous dit, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme, et c'était l'implication majeure de Solo, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme en l'absence de progrès technique. La seule manière de générer du progrès technique, c'est de faire croître le A. Seulement, Solow n'a pas de théorie de où le A croît. Il ne sait pas d'où ça vient, la croissance du A. Il n'a pas de théorie de ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème du modèle. Le modèle ne peut pas expliquer la croissance de long terme. D'accord? Mais il a le mérite de vous dire qu'il faut du progrès technique. Mais par contre, ce qu'a de bien le modèle de Solow, c'est que le modèle de Solow vous dit qu'il y a convergence conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Vous voyez, je divise, quand il y a des rendements décroissants, ça veut dire que plus j'ai d'unités de capital, plus la croissance de mon capital va baisser. Vous voyez, si je n'ai pas du tout de capital, je rajoute une unité de capital, vous voyez ce que je veux dire, la croissance de mon capital va augmenter très vite. Je divise par K ici, delta K sur K, ça va être très... Quand K est petit, ça va faire un truc très gros. Mais quand K est très élevé, ça va être un truc petit. Quand j'ai peu de capital, comme j'ai des énormes rendements au capital, ma croissance va être très forte. Quand j'ai déjà beaucoup de capital, mon taux de croissance va être très faible, puisque vous voyez, ma croissance ne peut venir que du capital, et une unité de capital de plus ne me donne presque pas d'épargne en plus. Donc c'est un modèle qui vous dit qu'il doit y avoir convergence. Vous comprenez? Alors conditionnel, parce que conditionnel au fait qu'on ait les mêmes paramètres, qu'on ait tous le même petit s, le même petit d, et la même fonction là, f, mais bon, n'allons pas dans le détail. Mais c'est très intéressant, c'est que c'est un modèle qui vous prédit la convergence, en tout cas entre des pays, entre des régions qui sont suffisamment similaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui a fait que ce modèle a, disons, eu du succès pendant longtemps? Il a eu du succès pendant longtemps parce qu'en fait, si vous voulez, un certain nombre de personnes, il se peut que Barrow ait un prix Nobel la semaine prochaine, pour ça, c'est possible, avec quelqu'un d'autre peut-être, et pas moi. c'est que Barrow et Salah et Martin, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont dit, ben écoutez, le modèle de Solow, c'est pas mal quand même, parce que on va regarder entre pays ou entre États américains. Et on voit que des pays relativement similaires tendent à converger. Les PIB par tête de ces pays tendent à converger. Les pays qui ont les PIB par tête les plus faibles tendent à croître plus vite, qui ont les stocks de capital donc les plus faibles, croissent plus vite que les autres. Au sein des États américains, il semble voir aussi une convergence. Vous voyez, je veux dire, les États américains en retard semblent converger. Et lui, il attribue la convergence au fait qu'il y a des rendements du capital plus importants dans les zones moins développées. Vous comprenez ? Donc lui, il dit, voilà. Alors moi, ma théorie de la convergence est différente. Moi, c'est plutôt les théories de « je suis loin, je peux tirer parti du savoir qui existe dans les pays plus développés ». Mais disons qu'on peut dire, voilà, si on croit dans le modèle de Solo, il prédit une certaine convergence. Et Barrow, Salah et Martin, eh bien, ils ont montré qu'en gros, eh bien, plus les pays étaient, moins ils avaient de capital par rapport à leur PIB, plus ils avaient une croissance forte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et pareil entre États américains, mais en excluant les pays africains et toute série de pays qui ne sont pas dans le club, si vous voulez, quelque part. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont montré qu'effectivement, si on se restreint à des pays essentiellement similaires ou des régions similaires, en termes de taux d'épargne, etc., on voit qu'effectivement, ceux qui démarrent d'un stock de capital par rapport rapporté à leur PIB plus faible ont tendance à croître plus vite. Voilà. Et donc ça va dans le sens de Solow, quelque part, voyez. Donc voilà, Barrow, c'est celui qui a vraiment essayé de donner raison à Solow empiriquement. Voilà, dans les données, en utilisant des données, des comparaisons entre pays et des comparaisons entre États américains. Voilà. Seulement le problème de Barrow, Salah et Martin, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi le PIB croît plus vite dans les pays les plus pauvres, ne croît pas plus vite dans les pays les plus pauvres, parce qu'on voit quand même, ça c'est une convergence conditionnelle qu'il y a, mais ça ne dit pas la convergence non conditionnelle, ça ne vous dit pas le Zimbabwe qui s'écarte de plus en plus des États-Unis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, le modèle de Solow, il ne vous dit rien du tout. Il ne vous explique pas la variance que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'il y avait cette divergence de taux de croissance et que donc ça faisait exploser la distribution des niveaux de PIB par tête au cours du temps. Ça, le modèle de Solow, il ne vous l'explique pas. D'accord ? Donc ça, c'est un des problèmes quand même. Et puis, il y a un autre problème qui est le paradoxe de Lucas. Alors ça, c'est une chose très importante, le paradoxe de Lucas. Voilà, le paradoxe de Lucas vous dit, voilà, je sais que le rendement du capital est plus grand si je crois Solow, dans les régions où le capital est plus rare, d'accord ? Et si je n'ai pas de machine, mettre une machine en plus, ça rapporte beaucoup plus. Donc le rendement du capital est très élevé. Par contre, dans un pays où il y a déjà beaucoup de capital, le rendement du capital est faible. Donc ce que je devrais observer, c'est que si moi je veux investir, je suis un investisseur international, j'ai envie de mettre mes sous dans des pays où il n'y a pas de capital, parce que le rendement du capital va être très élevé. Donc on devrait voir des flux massifs de capitaux des pays riches vers les pays pauvres. Or, on ne voit pas ça. Et ce qui explique ça, c'est le paradoxe de Lucas. Vous voyez, Robert Lucas, qui a eu le prix Nobel il y a longtemps, à l'âge de 50 ans, il explique la chose suivante. En 1985, les États-Unis avaient un niveau de PIB par tête qui était 15 fois plus grand que l'Inde. S'il avait fallu expliquer cette différence de PIB par tête entièrement par des différences de stock de capital, eh bien, il aurait fallu que le capital par tête, hein, le capital par habitant en Inde, soit 58 fois plus grand qu'en Inde, d'accord ? Mais avec de telles non, il aurait fallu que le taux de rendement du capital en Inde soit 58 fois le taux de rendement aux États-Unis. Si je voulais expliquer, si je voulais faire abstraction du progrès technique, des institutions, de tout ça, et de dire je n'explique la différence de produits par tête aux États-Unis en Inde uniquement par le fait qu'il y a des rendements du capital plus grands, il aurait fallu des rendements du capital en Inde 58 fois plus grands que les rendements du capital aux États-Unis. Avec une telle différence, on aurait dû voir un flux massif de capitaux des États-Unis vers l'Inde. Or, nous n'avons rien observé de tel. Il ne s'est rien passé de tel. Donc, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez comment je confronte aux données ? Vous voyez comment la théorie se confronte, mais vous voyez qu'on apprend en confrontant une théorie, même une théorie qui n'est pas parfaite, on la confronte à des données, vous vous posez des questions intéressantes. Voilà, donc ça c'est le paradoxe de Lucas. Alors évidemment, qu'est-ce qui manque chez Solow ? Ben, il n'a pas de théorie de l'augmentation du A, hein, de l'augmentation de la productivité, il n'a pas de théorie d'innovation. Et puis, il lui manque aussi les institutions. Par exemple, Zimbabwe, personne ne va aller investir chez Mugabe, parce qu'on se fait trucider, donc on ne va pas y aller, donc on ne va pas. Donc, ça c'est les institutions. Et évidemment, ils n'ont rien à dire sur les institutions. D'accord ? Donc ça, on reviendra là-dessus. Je mets des petites graines en vous et nous allons revenir sur ces choses-là. D'accord ? Et après, on va voir un peu éclairer tout ça. D'accord ? Donc je mets comme ça. J'aime bien mettre des petites graines. Avec ça, elles germent comme ça, toutes seules. C'est génial, les petites graines. Bon, alors je veux parler avant du résidu de Solow. Ça, c'est une notion très importante. Et Solow est aussi connu pour... donc, il a fait ce papier de 1956 sur le modèle de Solow. Mais en 1957, il a écrit un papier sur la comptabilité de croissance. C'est une notion très importante parce que maintenant, tout le monde fait de la comptabilité de la croissance. L'OCDE, la Banque de France, le FMI, tout le monde fait de la comptabilité de la croissance. Et vraiment... Alors, Madison avait été le premier qui a fait, mais je veux dire, Solow a un peu formalisé et expliqué la comptabilité de croissance. Il y a l'idée de la chose suivante. Il y a combien de manières de générer de la croissance ? Vous pouvez générer de la croissance en faisant croître le K. Alors là, j'ai mis que le K, c'est capital physique ou capital humain. Donc en fait, on a deux manières. On peut faire de la croissance en accumulant du capital physique ou du capital humain. Bon, ce qu'explique Solow, c'est qu'à long terme, ce n'est pas ça qui va vous donner la croissance. Mais à court terme, elle peut vous en donner. Mais bon, d'accord. Mais à un moment donné, on peut essayer de croître en faisant de capital physique, capital humain. Mais l'autre manière, c'est le progrès technique. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, comment je vais essayer de mesurer la contribution du A ? C'est que je connais la croissance du Y, hein, le pays par tête, je sais à quel taux il augmente. Le capital, si je peux le mesurer, je sais, le capital physique, le capital humain, je peux mesurer leur taux de croissance. Et tout ce qui n'est dans le capital, je fais la différence entre, d'un côté, la croissance du PIB par tête et moins la croissance du capital physique par tête, moins la croissance du capital humain par tête. Et ce que j'aurai, qu'est-ce qui va me rester ? Le A. J'aurai la croissance du A. Vous comprenez comment il a fait ? Hein ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a dit, voilà, il dit le résidu, la croissance peut être décomposée entre ce qui est dû à la croissance du capital et ce qui n'est pas attribué, capital physique ou capital, et ce qui n'est pas dû à ces facteurs, le résidu. Hein, donc vous décomposez la croissance du PIB par tête en croissance du capital physique humain, et le reste, c'est ce qui sera le progrès technique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il dit, je ne sais pas ce que c'est que le progrès technique, il ne peut pas l'expliquer dans son modèle, mais je peux essayer de le mesurer. C'est un animal que je ne connais pas bien, mais je peux essayer de voir au moins sa forme. Je peux voir s'il est gros, c'est un petit animal, un gros animal, je ne sais pas trop d'où il vient, mais je peux essayer de le mesurer. Et il le mesure par le résidu de Solow. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez comment est-ce que ça marche ? Voilà, alors qu'est-ce qu'a fait Solow ? Solow, en 57, il calcule que 80% de la croissance est dans le résidu. Oh, vous vous rendez compte, 80% de la croissance du PIB par tête, c'est le résidu. Quand même big deal, hein, comme on dit en anglais. Hein. Mais évidemment, le problème, c'est que Solow ne prend pas en compte l'amélioration constante de la qualité, là, j'ai fait un petit typo, du capital physique et de la qualité du capital humain. Or, on sait qu'il y a de l'éducation, on sait que la qualité des machines augmente. Donc, il n'avait pas bien mesuré le capital physique, le capital humain. Parce qu'évidemment, si vous ne mesurez pas la qualité du capital physique, capital humain, vous attribuez tout aux résidus. Et peut-être que vous attribuez trop au progrès technique, des choses qui... Hein, vous ne rendez pas à César ce qui est à César. Rendez au capital physique ce qui est au capital physique. Rendez au capital humain ce qui est au capital humain. Ne donnez pas tout. Donc il y a eu d'autres économètres. Et là, il y a des noms, c'est des collègues à moi de Harvard. C'est Jorgensen et Grylikes. Alors, Zvi Grylikes est un type très important en économie de l'innovation de la productivité. Il est mort malheureusement trop jeune. Et il a toute une école derrière lui. Jacques Mérès, par exemple, qui est un remarquable chercheur français, a beaucoup travaillé avec Zvi Grylikes et Dale Jorgensen, qui était mon collègue à Harvard. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refait Solow, mais en mesurant, en prenant en compte l'amélioration de la qualité du capital humain et du capital physique. Et quand ils font ça, eh bien, ils expliquent qu'ils ont un résidu. Alors, il reste un résidu important. Le problème, c'est évidemment de l'expliquer. Alors, voyez, regardez, quand on reprend par exemple, Jorgensen a fait ça plus récemment avec un autre co-auteur, puisque Zvi Grylikes était décédé. Donc, il y a dû. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On voit les résidus. Ça, c'est la fraction. Alors, ce qu'on appelle TFP growth, c'est la productivité globale des facteurs. C'est la croissance de la productivité globale des facteurs. C'est la croissance du A, en gros. Vous voyez ? Ça, ce qu'on appelle, hein, c'est un jargon. Quand vous entendez la PGF, la productivité globale des facteurs, vous savez maintenant que c'est le résidu de Solow. Voilà. Donc, voyez, le Canada, ça, il le regarde sur la période 1960-1995 en moyenne. Et on voit que c'est quand même des résidus assez gros, quoi. Vous voyez ? Ça, c'est les pays développés. Ça, c'est les pays qui sont... ça a été fait par Alwyn Young, qui est un économiste qui est à Londres, qui est remarquable, c'est un grand spécialiste de la comptabilité de la croissance sur les pays, notamment asiatiques. Et lui, il montre que bon, pour Singapour, le résidu de Solow est assez faible, parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup d'accumulation de capital récemment sur cette période 70-90 au Singapour. Donc, la part relative du A par rapport à l'accumulation du capital humain, du capital physique, avait l'air plutôt faible en Singapour, mais partout ailleurs, elle est très importante. Donc, ça veut dire que la croissance du A, c'est très important. Ça joue un rôle très important. Et on sait dans le modèle de Solow que plus ça va aller, plus ça va être le A qui va tout déterminer, puisque le capital va cesser de croître. Tout va venir de la croissance du A. Mais déjà maintenant, on voit que c'est très important. Donc, comment peut-on avoir une théorie qui laisse de côté quelque chose d'aussi important dans la croissance ? C'est-à-dire, c'est quand même très important. D'accord ? Donc, ça, c'est la chose qui est... Alors, je voulais simplement maintenant... là, j'ai parlé pour expliquer les différences de taux de croissance. Mais il y a une autre manière de faire la comptabilité, c'est de faire de la comptabilité de développement. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je vais expliquer les différences de PIB par tête. Vous voyez ? Et au lieu de décomposer les croissances de PIB par tête, je décompose les niveaux de PIB par tête. Et en gros, si vous voulez, alors là, il y a, par exemple, États-Unis, si je regarde États-Unis-Niger, par exemple, ça c'est Hall et Jones, et j'aurais dû marquer les références, mais tout ça je vais vous les mettre dans les slides parce que je vais les reprendre après le cours. Eh bien, il montre que on sait que le PIB par travailleur est 35 fois plus grand aux États-Unis qu'au Nigeria. Mais la différence entre intensité capitalistique, c'est-à-dire entre stock de capital rapporté au PIB, n'explique que 1,5 de cette différence. Et les différences en niveau éducationnel, en capital humain, n'expliquent que 3,1. C'est-à-dire que le gros du truc, c'est le A. Il explique que, si vous voulez, si on regarde en niveau, vous voyez, pour expliquer les différences de niveau de PIB par tête, je ne regarde pas la croissance, je regarde en ratio de niveau, eh bien, les différences de capital humain et de capital physique n'expliquent qu'une petite partie, le gros de la différence entre le Nigeria et les États-Unis, c'est des différences de niveau de A. Le A américain est beaucoup plus grand que le A nigérian. D'accord ? Donc, c'est une autre manière de regarder ça. Au lieu de regarder les croissances, vous regardez les niveaux. Alors là, il y a eu Clino, Rodriguez, Claire. Plus récemment, ils ont décomposé les variations entre pays du produit par tête, et ils ont montré que plus de 60% de la variation du produit par tête est expliquée par des différences de A. Vous voyez, des différences de productivité globale des facteurs. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et donc la question, c'est de savoir comment je peux expliquer des différences aussi persistantes, à la fois des taux de croissance du PIB par tête ou des niveaux de PIB par tête entre les pays. Ça, c'est ce que Solow ne peut pas faire, puisque si je suis dans le modèle de Solow, les différences devraient disparaître. D'abord, dans le modèle de Solow, il y a le progrès technique, je ne peux pas l'expliquer. Alors, il dit oui, il peut expliquer la différence du progrès technique, mais lui n'explique pas le progrès technique. Et deux, si je fais abstraction du progrès technique, dans le modèle de Solow, tout le monde converge, et je ne devrais pas avoir. Tout le monde devrait converger vers les mêmes taux de croissance et finalement vers le même niveau de PIB par tête. Donc, si vous voulez, le grand problème, c'est qu'effectivement, j'observe que les régions américaines avec moins de capital croissent plus vite que les régions américaines avec plus de capital, mais ce n'est pas tout vrai. Un petit peu, disons d'une certaine manière. Donc, ça, c'était Barreau, Salah et Martin, mais si je regarde, je ne peux pas rendre compte de la divergence persistante des taux de croissance de PIB par tête, et je ne peux pas rendre compte de la dispersion croissante des niveaux de PIB par tête entre pays, et c'est là vraiment les limites du modèle de Solow. Et c'est là que et on se rend compte aussi que ce qui est primordial, c'est que le A joue un rôle important et que Solow n'explique rien sur l'origine de ce A. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on est maintenant. Voyez, regardez par rapport à la Somalie, par rapport à Hong Kong, voyez, c'est les niveaux, voyez, ça c'est les niveaux de productivité des facteurs là. Tout à l'heure j'avais montré des niveaux de PIB par tête. La productivité des facteurs en Somalie, elle est milliputienne par rapport à la productivité des facteurs par rapport au A américain. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve bien les pays, là, on retrouve bien les pays développés, là, on retrouve bien les BRICS, hein, et puis là, on retrouve bien sûr les pays moins développés. Et vous voyez vraiment que la TFP est un élément très important pour expliquer qui est plus développé, qui est moins développé, voyez. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer là. Alors, juste une chose sur l'importance de l'innovation. Alors, on va aller vers un modèle petit à petit où il y a deux acteurs, deux grands absents du modèle de Solow. Le premier grand absent, c'est l'innovation, c'est-à-dire qui est la source du progrès technique. Et la deuxième grand absent qui est derrière, c'est les institutions. Alors, simplement sur les innovations, je n'ai pas les figures ici, mais on peut montrer que, évidemment, les pays les plus avancés sont des pays où, on innove plus, la quantité de brevets par habitant est plus grande, donc il y a un lien entre le niveau de développement des pays et la quantité de brevets, l'intensité de brevets, d'innovation. Mais je veux vous montrer simplement la chose suivante. Et ça, c'était une autre manière de critiquer Solow, qui est due à Romer, qui peut-être lui aussi aura le prix Nobel la semaine prochaine. Donc, si vous voulez... Romer dit la chose suivante, dit voilà, si je croyais dans Solow, ça veut dire que la croissance va aller vers zéro. Si je crois dans le modèle de Solow, je pense que la croissance va décroître au cours du temps. Qu'est-ce que fait Romer? Il dit voilà, je vais calculer la probabilité, je prends deux décades de suite, deux décennies de suite, et je regarde quelle est la probabilité qu'un pays ait une croissance plus importante dans la deuxième décennie que dans la première. Il prend des décennies sur une période très longue, 1700-1978. Et il regarde deux décennies, des décennies, des décennies, il les prend deux par deux. Et il dit quelle est la fréquence des fois où l'Angleterre croît plus vite à la deuxième décennie que la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Il prend les décennies, mais il les fait bouger comme ça. Vous voyez, donc il a plein de décennies, parce qu'il fait bouger. Vous voyez, il part de 1700-1710, après il fait 1701-1711, et puis tac, 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 donc il en prend plein de décennies. Et il regarde à chaque fois, je prends deux fois des décennies, donc j'en prends deux par deux. Hein, et je regarde quelle est la probabilité qu'un pays donné va croître plus vite dans la deuxième décennie que la première. Et vous voyez que, regardez, c'est toujours une probabilité au-dessus d'un demi. Il y a toujours une probabilité plus grande qu'un demi de croître plus vite dans la deuxième décennie que dans la première. C'est-à-dire que si j'étais dans un monde à la Solow, la probabilité devrait être presque 1 que je croie moins vite dans la deuxième décennie que dans la première. Or, je crois plus vite dans la deuxième décennie que dans la première. Ça veut dire ça, c'est une manière merveilleuse de montrer que la croissance est soutenue. Le modèle de Solow vous prédit que la croissance devrait s'essouffler. Or, la croissance ne s'essouffle pas. Et donc, on veut un modèle qui explique pourquoi la croissance est soutenue. Et évidemment, l'innovation est un facteur essentiel d'expliquer pourquoi la croissance est soutenue ou pas. D'accord? Alors, combien de temps il nous reste maintenant? Je ne sais plus combien. Qu'est-ce que j'ai comme temps? Parce que là, il me reste... oh là là, oui. Donc, je vais quand même commencer parce que j'ai encore 20 minutes, mais j'aimerais terminer avant. Peut-être un petit peu. Enfin, j'ai 20 minutes, donc je vais commencer, mais je continuerai la prochaine fois. Donc, je vais maintenant passer par l'importance des institutions. Moi, j'aimerais qu'on me passe ma deuxième... Alors, je vais y arriver tout seul comme un grand, en fait. Regardez ce que je vais faire. Je vais le faire comme un grand. Voilà. Alors, voilà, collège court. Voilà. Oh, génial. Ça va tout seul. Voilà. Et maintenant, je vais faire diaporama... Voilà, à partir du début. Oh, c'est merveilleux. Oh là là, bon, voilà. Très bien. Alors, l'importance des institutions. Alors là, c'est très basé sur un collègue à moi qui était mon étudiant. Il a étudié la croissance avec moi beaucoup. Et il s'appelle Acemoglu. Lui aussi, a un nom à suivre. C'est quelqu'un voilà, qui a fait beaucoup de choses et qui a vraiment beaucoup mis en évidence, enfin, concrètement, c'est-à-dire que moi, on avait vu avec Howitt, on a une théorie qui disait que les institutions, c'est important, on avait vu certaines institutions, mais lui, il a regardé à un niveau très global et historique l'importance des institutions. Et j'ai envie de parler d'histoire dans ce cours, d'accord? Parce que la théorie de la croissance, c'est une façon, on en a parlé déjà quand j'ai parlé du fait que la croissance est un phénomène récent, ensuite on a parlé de la croissance des inégalités au cours du temps, et je veux parler d'institutions, c'est très important, et de l'évolution, des évolutions de long terme. Et l'importance des institutions. Alors là, je voulais d'abord m'excuser par avance parce que je n'ai pas eu le temps de tout traduire. J'ai traduit et j'ai modifié des slides que j'avais avant qui étaient en anglais. Je les ai mis en français, mais certaines sont en anglais et je vais les traduire. Mais quand vous les aurez dans deux jours, elles seront entièrement en français, d'accord? Sauf les figures, d'accord? Donc je m'excuse par avance, mais quand vous aurez les transparents, elles seront traduites. Voilà. Alors, la source de prospérité. Donc déjà, on reprend le début. On dit, pour expliquer les différences de PIB par tête entre pays, là, je sens déjà que les gens commencent à tousser. C'est un signe, en général, de fatigue. Et je n'ai rien de contre. Et bien, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une mesure pour moi que je ne dois pas en faire trop. Mais seulement, évidemment, c'est une mesure qui dépend des mois. Parce que, par exemple, en février, tout le monde tousse, même si je suis un professeur passionnant. Donc, je dois ajuster ma mesure, vous voyez, vous voyez, voilà, c'est tout à fait un modèle économique qu'il me faut là. Il faut que j'ajuste ma... Vous voyez, ça dépend de si je suis trop ennuyeux, si ça fait trop longtemps que vous m'entendez, vous ne m'en pouvez plus. Et évidemment, de l'humidité dans l'air, du froid, des changements de température. Vous voyez, c'est un modèle compliqué, hein, un modèle économique, celui des tous. Voilà. Donc, alors, les différences de PIB par tête, voilà. Alors, il y a des réponses. Donc, on a dit qu'il y a des réponses traditionnelles. On a dit qu'évidemment, les différences de stock de capital physique sont importantes. On pourrait vous dire, mais oui, mais les pays pauvres épargnent moins. D'ailleurs, pourquoi ? Ça sera expliqué. On pourrait vous dire, les pays pauvres, écoutez, ils croissent moins parce que, ou ils ont des PIB par tête plus faibles parce que, eh bien, ils épargnent moins que les autres. Voilà, on pourrait vous dire ça. Mais maintenant, il faudrait expliquer pourquoi ils épargnent moins. D'accord ? Ensuite, on sait que les différences de PIB par tête sont dues à des différences de stock de capital humain ou de taux de croissance du capital humain. Ben, on peut dire les pays plus pauvres, ben, écoutez, ils n'investissent pas assez en éducation, en qualification. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir des écoles et des universités de qualité. Voilà, ça explique pourquoi ils sont moins bons. Et puis, il y a des différences technologiques. On peut dire, voilà, les pays pauvres n'investissent pas assez en recherche-développement, R&D, c'est recherche et développement, ça reviendra souvent, ni en adoption technologique, et puis peut-être qu'ils n'organisent pas leur production de manière efficace. Je reviendrai là-dessus, parce que je parlerai de la notion de management practice, de pratique de management. Il y a eu des études très intéressantes récemment sur les pratiques de management. C'est des sources très importantes de différences de PIB par tête, en fait. Le A est une énorme boîte noire. Le A, c'est à la fois des différences de technologie, mais c'est aussi des différences dans les management practices, dans les façons d'organiser la production. Et c'est très intéressant de savoir d'où viennent ces différences. C'est une différence très importante entre les pays développés et les pays pas développés. Mais je reviendrai sur cette question. Donc là, c'est une énorme boîte noire, le A, que je vais ouvrir petit à petit. Donc voilà, en gros, on en est là, nous. D'accord ? Mais évidemment, on pourrait dire, mais écoutez, tout ça, c'est pas endogène. Pourquoi les pays pauvres épargnent moins ? Pourquoi les pays pauvres n'investissent pas assez en éducation ? Pourquoi ils n'investissent pas assez en R&D ? Est-ce que c'est purement pour des raisons technologiques ou est-ce que ce n'est pas aussi pour des raisons institutionnelles ? D'accord ? Donc, et c'est là que, disons que d'autres, Acemoglu et d'autres se posent la question, est-ce que les causes ne sont pas plus profondes ? Pourquoi certains pays investissent-ils moins en capital physique et en capital humain ? Pourquoi certains pays ne parviennent pas à innover ? Pourquoi certains pays ne parviennent pas à adopter leurs technologies ? À les améliorer et à organiser leur production de manière plus efficace. Et on va voir qu'à chaque fois, c'est vrai que ça renvoie à des différences institutionnelles. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir petit à petit. Et alors, donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, il y a des causes plus profondes. Alors là, il y a un débat à nouveau, puisque je veux vous présenter la chose d'une manière amusante en termes d'un débat. Et le débat, c'est ceux qui disent, ce qui compte, c'est les institutions. Alors, je vais définir ce que c'est. Il y a beaucoup de définitions des institutions. C'est un peu une tarte à la craie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Donc là, il y a un peu d'anglais, désolé. Je reviendrai sur la définition des institutions. Humanly devised rules, c'est-à-dire des règles que les êtres humains mettent en place pour déterminer les contraintes et les incitations. C'est ça que se dit là en anglais. L'autre, c'est la géographie. C'est-à-dire, voilà, on est dans des climats chauds ou froids, humides ou secs, etc. Et ça fait une différence, des zones fertiles, des zones pas fertiles. Et puis, il y a la culture, c'est-à-dire des différences de croyances, d'attitudes, de préférences, de normes, qui peuvent jouer un rôle également. Donc, tout ça peut jouer un rôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et derrière les différences d'attitude sur l'épargne, sur l'innovation, sur l'éducation, etc. Donc on peut dire, évidemment, mon cher monsieur, vous renvoyez des choses profondes, allons profondément, vous dites les institutions, mais ça peut être la géographie, ça peut être la culture. Et là, il y a eu un débat très important entre Acemoglu et ses co-auteurs d'un côté et Jeffrey Sachs, qui était un économiste, qui était à Harvard, qui maintenant est un économiste il est à Columbia, Jeffrey Sachs, et lui, il disait que c'est la géographie qui est importante. Et on va revenir un petit peu à ce débat entre Acemoglu et Sachs, d'accord ? Et si vous voulez, donc d'abord, je veux définir la notion d'institution. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? Une institution, c'est une règle du jeu qui gouverne les interactions économiques, politiques et sociales. Voilà. Et ça établit des contraintes, ça détermine des incitations. Alors, il y a eu un prix Nobel d'économie qui s'appelle Douglas North, qui a eu le prix Nobel pour mettre en évidence le rôle des institutions dans l'économie. Donc là, il y a cette citation en anglais. Je ne veux pas vous embêter avec l'anglais, donc je garde les slides et je passe tout de suite. Qu'est-ce que ça prend pour institution, typiquement ? Et on va revenir à ces gens-là. Donc je vous les montre déjà parce que dans tout le cours, ça va revenir et revenir et revenir. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est que ces institutions ? Eh bien, écoutez, la protection des droits de propriété, on va voir que c'est très important. Il y a des pays où ils ne sont pas protégés. On va voir que ça fait des différences. Est-ce que vous voulez épargner dans un pays où votre épargne est confisquée ? Ou est-ce que vous voulez faire de l'innovation dans un pays où vos profits seront confisqués ? Bon, ça, c'est important. Il y a le système juridique, et c'est important, si on vous vole, de pouvoir poursuivre quelqu'un en justice, ou dans le cas qu'il y ait une justice. Bon, c'est important. La corruption, c'est très important. Est-ce que dans un pays où les firmes en place pour faire de la corruption et du lobbying avec les gouvernements, ou des pays où tout le monde est plus sur un pied d'égalité. Bon, c'est un pays où les gouvernements peuvent être achetés ou un pays où ils le sont moins, ça fait une grosse différence. Les barrières à l'entrée, par exemple, est-ce que les firmes en place mettent des barrières à l'entrée de nouveaux arrivants, de nouveaux innovateurs ou pas ? Ça, on va revenir sur cela tout le temps. Hein ? La démocratie. Est-ce que c'est important d'avoir de la démocratie ou un régime totalitaire ? Est-ce que les contraintes imposées aux élites politiques et aux gouvernements ? Il y a des pays où il y a des élections et en fait les gouvernants n'ont aucune contrainte. D'accord ? Voilà, on les connaît, je ne vais pas les nommer. Hein ? Et on a été comme ça, nous aussi. Voilà, Pierre Rosanvallon, mon collègue, a écrit Le Bon Gouvernement et il décrit que sous Napoléon III, c'était à une période où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de contraintes imposées. Nous aussi, on a eu notre période, disons qu'il appelle césarienne, c'est autre chose. Voilà. Donc, il y a les règles électorales. Est-ce qu'on a un régime de majoritaire, proportionnel ? Est-ce qu'on a un système présidentiel, parlementaire ? Toutes ces choses-là, en fait, sont très importantes pour la croissance. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que maintenant, la nouvelle théorie de la croissance, mais j'y reviendrai quand je fais le modèle schumpeterien, c'est que tous ces animaux-là vont jouer un rôle dans cette grande pièce. La croissance, c'est comme une grande pièce de théâtre. Chez Solow, tous ces acteurs étaient absents, et je vais faire rentrer tous ces acteurs dans cette merveilleuse comédie qui est la comédie de la croissance. Voilà. Et c'est ça qui va être passionnant dans ce cours, c'est que tous ces gens-là vont jouer un rôle très important dans ce que je vais raconter sur la croissance. D'accord ? Donc voilà, je n'entends plus tousser. Vous voyez, je sens bien, c'est important. C'était très bien, continue à le faire, parce que c'est une mesure pour moi, je sens comment je dois accélérer. Bon, alors, donc je parle des travaux d'Acemoglou et compagnie. Non, pas mal. Bon, oui, donc là tout de suite, donc, première figure. Alors, ça, c'est déjà montre quelques figures, mais c'est des figures très, très simples. Il faut d'ailleurs qu'on me mette à la porte assez vite. Il est 46. Je dois, dans 10 minutes, disparaître. Bon. Alors, ça vous donne en abscisse la protection des droits de propriété, la protection contre les risques d'expropriation. Donc, c'est une mesure de protection des droits de propriété. Il y a des mesures. Donc, on a mesuré. Alors, ne dites pas comment on l'a mesuré, mais on mesure la protection des droits de propriété dans différents pays. C'est des indicateurs Banque mondiale, notamment. Et puis, en ordonnée, c'est le PIB par tête, le log du PIB par tête. Et on met différents pays en moyenne sur la période 85-95. Et on voit qu'en gros, les pays plus développés, c'est des pays aussi où les droits de propriété sont le mieux protégés. Donc c'est intéressant déjà, c'est qu'on voit qu'il y a un lien assez fort, une corrélation, mais ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation entre, d'un côté, le PIB par tête et de l'autre, la protection des droits de propriété. Donc c'est intéressant quand même, hein, le développement institutionnel. Alors évidemment, la causalité peut aller dans les deux sens. D'abord, il peut y avoir ça peut dire, comme j'ai une meilleure protection des droits de propriété, je peux produire mieux et j'ai un plus grand PIB par tête, mais ça peut être aussi un plus grand PIB par tête, je peux me payer un système de justice, éduquer les juges, etc., et avoir un meilleur système de propagation des droits de propriété. Il peut y avoir autre chose qui est corrélée avec les deux. Et voilà, donc ça, c'est une corrélation, d'accord ? Là, c'est une autre mesure. J'ai toujours le PIB par tête en ordonnée, mais en abscisse, je mets le contrôle de la corruption. Et c'est pareil, mieux on contrôle la corruption, plus on a un niveau élevé de PIB par tête. Mais à nouveau, la causalité peut être dans les deux sens, d'accord ? Et là, c'est encore une autre mesure, c'est constraint en exécutif, c'est-à-dire qu'en abscisse, j'ai les contraintes, c'est-à-dire dans quelle mesure le président ou le premier ministre ne peut pas faire ce qu'il veut, hein, et le développement. Et on voit que dans les pays plus développés, on met davantage de contraintes à l'exécutif. Alors, effectivement, ce n'est pas une mesure totalement monotone, parce que, comme vous le savez, entre la 4e et la 5e République en France, la 4e République, l'exécutif avait trop de contraintes, d'une certaine manière. Et peut-être, alors, il y a tout le débat, est-ce que ça a été une bonne chose d'aller de la 4e à la 5e République ? Mais enfin, ça, c'est, à ce niveau-là, on n'est pas dans ce... Là, c'est du fine-tuning, comme on dirait, hein, on n'en est pas là. Quoi. Donc, grosso modo, c'est mieux d'avoir plus de contraintes que moins. Mais peut-être que trop de contraintes peut être mauvais, mais là je ne l'ai pas représenté. Les institutions, évidemment, elles peuvent varier. Elles viennent pas du ciel, les institutions. Elles varient sous l'influence de différents facteurs. Donc, évidemment, la géographie, le climat peut-être être important. La culture, d'autres facteurs peut-être. Alors là, il y avait la théorie de Montesquieu. Alors, je caricature Montesquieu. Je suis sûr qu'il y a des grands spécialistes de Montesquieu ici. Et ils vont se lever, ils vont dire, mais vraiment, quel scandale. Comment vous caricaturez la pensée de Montesquieu ? C'est un homme extraordinaire. Donc, si vous voulez, donc là, mais en gros, quand même, c'est que sa vision, c'est que la géographie déterminait les comportements humains. Et les comportements humains déterminaient les performances économiques et le système politique. Alors là, je fais un truc épouvantable. Je résume Montesquieu dans une quote en anglais. Donc ça, évidemment, c'est la honte absolue. que j'ai un auteur français en anglais, c'est comme quelle horreur, dans ce collège, je crois que c'est la première fois, ça va faire scandale. Mais je vais, vous promets que je traduis Montesquieu dans, et que je remets dans la langue originale. Voilà, je vois déjà des gens qui parlent. Dans la... Alors, en gros, si vous voulez, Montesquieu, c'était la chose suivante, c'est de dire dans les climats chauds, eh bien, dans les climats très chauds, les gens ont tendance à être paresseux. Si les gens sont paresseux, eh bien, ils s'accommodent d'un despote. Vous voyez, par exemple, Al-Sisi en Égypte, s'il fait très chaud, je ne m'accommoderai pas de Al-Sisi en Suède, mais en Égypte, c'est bon, parce que comme il fait chaud, je veux quelqu'un qui s'occupe de tout pour moi, etc. Bon, je caricature un peu, mais enfin, en gros, c'est ça, quoi. Tandis que dans les pays vigoureux où il fait froid, là, je veux des gens qui sont très entrepreneuriaux et donc ils demandent la démocratie davantage, voilà. En gros, c'est un petit peu ça, la théorie, quoi. Elle est, évidemment, c'est un petit peu injuste, parce que Montesquieu est un homme d'une finesse extraordinaire, donc je caricature un peu, je fais exprès de forcer le trait un petit peu, voilà. Et quelque part, après, il y a eu d'autres qui ont continué, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. À nouveau, le même Jeff Sachs que tout à l'heure et Jared Diamond, mais je ne veux pas parler de ça. Alors, évidemment, on peut regarder un premier niveau, on peut dire Montesquieu a raison, parce que si vous regardez le PIB par tête et la latitude, c'est-à-dire la distance, la proximité de l'équateur, plus les pays sont proches de l'équateur, plus ils sont loin de l'équateur, je veux dire, plus ils sont développés, plus ils sont près de l'équateur, moins ils le sont, d'accord ? Donc, on peut dire, finalement, M. Montesquieu ou M. Jeff Sachs et M. Jared Diamond ont raison. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, le problème est le mécanisme. Et le problème, c'est de dire, c'est le climat. Vous voyez, dans la logique de Montesquieu, c'est de dire, le climat détermine les institutions de la manière directe, c'est-à-dire, vous voyez, mais c'est surtout le climat qui est important. Et leur vision, c'est surtout de dire que dans les pays où il fait très chaud, vous savez, il y a des moustiques, qu'est-ce que vous voulez faire dans des pays où vous devez la plupart du temps chasser les mouches, bon, et vous ne pouvez pas travailler, etc. Où il n'y a pas d'air conditionné, voilà, bon. Donc, si vous voulez, en gros, c'était ça leur vision. Et une autre vision, c'est de dire, il peut y avoir le climat, mais l'élément important, c'est les institutions. Il faut comprendre vraiment la causalité, c'est par les institutions que ça passe, c'est-à-dire de dire, peut-être le climat a pu jouer à un moment donné, mais ce qui est important, c'est que c'est les institutions que ça a pu, dans lesquelles ça a pu résulter, et que tout passe par le lien institution et performance. Il y a très peu qui se passe, une fois que je contrôle pour les institutions, il ne reste rien pour le climat, vous voyez ? Et ce n'est pas la même chose. L'autre, c'est de dire, le climat a différentes manières, dont les institutions, dont autres, d'influencer, et l'autre, c'est de dire, non, c'est les institutions, et une fois que j'ai pris en compte ce qui se passe par les institutions, le reste du climat, ça ne compte pas. Voilà. Et ça a été Acemoglu contre Jeff Sachs. Alors maintenant, je ne sais pas quelle heure il est, si je dois m'arrêter maintenant ou pas. Il est quelle heure, là ? Chaque fois, je regarde l'heure, toutes les 3 minutes. Il est 52. Alors, écoutez, je fais juste trois pour résumer ce que je vais faire la prochaine fois, parce que je vais continuer sur Acemoglu, sur ces choses-là. Ce que je vais dire, voilà, il va y avoir trois choses que je vais faire. C'est comme Acemoglu, on est dans un tribunal, d'accord ? Donc, je suis dans un tribunal. J'ai Jeff Sachs en face de moi. Jeff Sachs me dit, moi, c'est la géographie. Et moi, je dis, écoutez, moi, je vais dire que c'est l'institution. Et je vais arriver avec trois arguments. Mon premier argument, ça va être des expériences naturelles. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment ça leur contribution, c'est qu'ils ont montré comment l'histoire vous offre des expériences naturelles. Moi, je vais le faire aussi quand je parlerai d'éducation et de rivalité militaire. Mais quelque part, l'histoire vous donne des expériences naturelles. La première expérience que je vais vous considérer, c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ces deux pays, ils ont la même culture, la même géographie et le même climat, et tout pareil. Et puis tout d'un coup, hop, il y a un passe dans un système, l'autre dans l'autre. Et on va voir qu'il y a des normes, après tout change. Ça, c'est une expérience naturelle. Une autre, ça va être les colons. Il y a des zones où vous savez, quand les Européens ont colonisé l'Afrique notamment, ou l'Amérique, il y a eu des endroits où ils sont tombés très malades et ils n'ont pas pu vraiment coloniser, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans des ports. Et ils ne sont pas vraiment introduits à l'intérieur des pays parce qu'ils mouraient trop, quoi, et donc ils ne pouvaient pas. Et alors, vous pouvez dire, c'est le climat, mais les autochtones ne mouraient pas tellement. Les autochtones étaient habitués au climat local. Donc, c'est vraiment la mortalité des colons. Et on va voir que là où les colons meurent beaucoup, ça donne des institutions aujourd'hui très différentes de là où les colons ne sont pas morts. Parce qu'évidemment, plus ils sont implantés dans le train, plus ils ont influencé le pays. Ils ont remodelé le pays. Là où ils restent comme des comptoirs, ben, si tu restes juste un comptoir, tu ne modèles pas un pays. Et donc, les institutions sont très différentes. Donc, c'est l'expérience naturelle de la mortalité des colons. Il y a plus de mortalité dans certains endroits que dans d'autres. Et la troisième expérience naturelle, c'est ce qu'ils appellent, eux, j'appelle ça la roue tourne. C'est-à-dire que vous avez, en gros, il y a le sud des États-Unis et le nord des États-Unis. Si vous regardez avant la révolution industrielle, qu'est-ce qui est prospère aux États-Unis ? C'est le sud, c'est les plantations. Si vous regardez après la révolution industrielle, qu'est-ce qui est prospère ? C'est le nord. Donc, pourquoi ? Et pourtant, rien n'a changé, la géographie est restée la même. Le climat est resté la même au nord, au sud. Et pourtant, ceux qui étaient moins bons deviennent meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Et on montrera à nouveau que c'est le rôle des institutions. D'accord? Donc je vais faire ce case pour montrer l'importance des institutions. Et après, je vais passer à l'analyse schumpeterienne. Je vais parler un peu de la théorie schumpeterienne. Et après, on va commencer à parler un peu de tout ce qu'on peut expliquer en détail à partir de la politique schumpeterienne. Je crois que je m'arrête là. Je crois que déjà, je vous ai mis beaucoup de choses dans la tête. Il y aura dans 2 jours les transparents. Et voilà. Et on continue notre débat. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien.